Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On va parler du Mac Studio que tout le monde adore, des deepfakes de Zelensky, de Starlink, de SpaceX et de tout le reste de l'actu tech dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Si vous nous suivez sur Twitch, vous avez assisté à ce fail incroyable de la première introduction pré-générique qui a dû être recommencée. Mais la deuxième fois aura été la bonne. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 450. Nous sommes en mars 2022 et nous avons, comme je le disais, un programme plutôt intéressant pour cet épisode pour lequel il me faut remercier Plivox, Freakazoid, Laurent L, qui sont les patriotes qui ont rejoint la communauté formidable, que dis-je, la communauté, la famille des patriotes qui soutiennent l'émission, ainsi que Lancelot Davizard et Franck Matignon, deux de nos formidables producteurs qu'on remercie à chaque épisode parce qu'ils ont trouvé le petit niveau secret sur patreon.com/rdvtech. Saurez-vous le trouver vous aussi? C'est la question à laquelle vous pourrez répondre en suivant le lien qui est dans les notes de l'émission. Avant de dire bonjour à mes deux co-animateurs, Siegfried et Guillaume, avec un programme, comme je le disais, plutôt intéressant, je voudrais vous signaler que pour la semaine prochaine, je serai en déplacement et c'est le cinquième mardi et jeudi du mois. Et vous savez ce qui se passe généralement pour le cinquième mardi ou jeudi et ou jeudi du mois. C'est des épisodes spéciaux pour le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu. Et j'ai presque hâte que cet épisode-ci soit terminé et que le suivant arrive. Non que la qualité de celui-ci ne soit pas bonne en raison des invités. Pas du tout, au contraire. Mais je veux dire, le suivant va être super intéressant, je pense. C'est un épisode avec Cédric Ingrand où on parle des véhicules électriques. On fait un petit tour d'horizon des véhicules électriques et on a passé un très, très bon moment à l'enregistrer. On aura aussi, pour le rendez-vous jeu, un épisode sur la préservation du jeu vidéo et le rétro gaming qu'on a fait avec Fabrice de Recallbox. Donc, un beau programme pour la semaine prochaine avec des épisodes spéciaux pendant que je serai en train de faire des choses importantes. Et j'espère que ça vous plaira. Mais pour le moment, on a donc un épisode bien rempli. Et alors, je devrais dire honneur aux aînés, mais je vais d'abord dire bonjour à Guillaume, puisque bah, on va parler de Mac aujourd'hui. Donc Guillaume est un petit peu notre fanboy de service qui va nous dire du bien de tout ça, parce que la semaine dernière, on n'était pas hyper enthousiasmés. Bonjour Guillaume Vendée de Tech Café, comment vas-tu ?
Salut Patrick, merci beaucoup pour l'invite, c'est toujours un plaisir. En plus c'est le printemps, il fait beau, donc on a tous le sourire aux lèvres. Écoute, faut prendre avec des pincettes hein, ce côté fanboy, parce que je me fais un petit peu insulter maintenant sur Twitter quand je parle pas suffisamment bien d'Apple, donc bon, on va voir ce qu'on peut faire.
C'est pour cette objectivité orientée qu'on aime... Non, je plaisante. mais c'est vrai qu'on n'était pas très enthousiastes sur le Mac Studio la semaine dernière. Et les premiers tests, disons, ont des éléments qui nous amènent à revoir un petit peu notre avis là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, objectivement, l'appareil lui-même ne change pas, mais la manière dont on le voit, je crois, est un petit peu différente. Bref, on va en parler dans un instant. Merci Guillaume d'être avec nous. Et on a aussi Siegfried, alias Captain Web, qui est avec nous aussi.
Le plus vieux.
Le plus, comment dire, le plus vénérable, on va dire ça comme ça.
C'est bien, tu peux dire ça, effectivement.
Alors, ton volume est un peu redescendu, Siegfried. Alors, je ne sais pas, peut-être que je devrais baisser celui de Guillaume pour équilibrer. On va essayer de faire ça comme ça. Donc, oui, Siegfried, le plus vieux, le plus vénérable, le plus
voilà,
sage aussi.
Le plus honteux, on me le dit souvent.
Écoute, on va parler de politique internationale avec le Captain Web. Je suis sûr que ça va bien se passer.
Mais oui,
merci d'être là avec nous. Et on va commencer du coup avec l'actualité, hein, les infos à retenir. Et la première info, évidemment, c'est le Mac Studio. J'ai titré Mac Studio, tout le monde l'aime, point d'interrogation. Il faut avouer que la conférence dont on parlait la semaine dernière, la conférence d'Apple, était un petit peu, on était un petit peu tiède. Et dans l'ensemble, oui, il n'y avait pas énormément d'annonces incroyables, mais le Mac Studio a eu il est arrivé dans les mains des journalistes et les reviews sont quand même assez dithyrambiques. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, du coup, Guillaume, de ce Mac Studio ? Tu en penses quoi, toi ? Juste pour rappeler, le Mac Studio est le premier Mac, entre guillemets, puissant, qui est équipé du processeur M1, donc le Mac qui est censé être utilisé vraiment pour le travail, pour faire des trucs sérieux. Il y a la version M1 Max et M1 Ultra, qui est en fait deux processeurs M1 collés l'un contre l'autre avec une connexion ultra rapide. Et bah, ça tourne bien, quoi. Oui, je t'ai interrompu, pardon.
Bon, effectivement, il y a deux trucs peut-être qu'on peut garder à l'esprit. Hein. D'ailleurs, il y a d'une part le Mac Studio et d'une autre part, comme tu le dis, le M1 Ultra. Et je crois qu'il faut finalement peut-être un petit peu différencier les deux. Alors déjà, le Mac Studio, on peut peut-être rappeler pour ceux qui ne l'ont pas suivi, mais il faut considérer le fait que c'est un Mac mini sur stéroïdes et avec plein de ports et qui répond à plein d'attentes et plein d'exigences d'utilisateurs poussés. J'ose pas utiliser le mot de professionnel parce que le nom de studio est vachement bien trouvé, je trouve. Le côté studio fait que ça, forcément, ça s'associe pas forcément à des professionnels, pas forcément à un utilisateur lambda. On sent bien que c'est une cible un petit peu plus vague et peut-être un peu plus proche de pas mal d'attentes d'utilisateurs exigeants.
la grosse différence, quand on dit le MacBook Pro, enfin le Mac Pro traditionnellement, ce qu'on pense quand on entend ordinateur destiné aux professionnels, c'est modularité, possibilité de changer des éléments. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc effectivement, le mot studio est pas mal trouvé. C'est un ordinateur qui sert à des professionnels qui ont des tâches gourmandes en ressources informatiques, avec des ports, beaucoup de ports, hein, USB-C, USB-A, etc. Mais on peut a priori rien changer dedans. Donc c'est pour ça que c'est une sorte de compromis entre deux. Il est pas mal qu'ils aient lancé une nouvelle gamme, quoi.
Ah, c'est quand même une machine pour les pros, quoi, vu le tarif du bordel.
C'est vrai que ça commence à 2000 balles, donc oui, c'est pas...
2000, c'est vraiment le bas de gamme, quoi. C'est ouais.
Le moins cher,
voilà, on va dire ça.
Plus accessible. Tu mets le doigt dessus. Je pense que le prix déjà positionne le produit comme étant quelque chose qui va répondre à certains besoins professionnels. Donc ça, c'est une première chose. Effectivement, il y a probablement beaucoup d'utilisateurs classiques comme vous et moi qui vont se contenter d'un Mac Mini et ce sera largement suffisant. Et après, derrière, effectivement, à l'intérieur, on a, et c'est l'objet des tests que tu voulais peut-être qu'on partage, Patrick, dans l'épisode, le M1 Ultra qui est grossièrement deux M1 Max qui sont collés l'un à l'autre pour doubler les capacités. Et ce qui est hyper intéressant, bah, c'est que ça confirme effectivement que le M1 Ultra, sur plein de tâches qui nécessitent beaucoup de ressources du processeur, est effectivement bien plus rapide que le M1 Max, qui est déjà largement suffisant pour beaucoup d'usages de ce type. En revanche, deux points à garder à l'esprit, c'est que l'utilisation, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais monocœur, et grosso modo, c'est l'ensemble des tâches qu'on va faire au quotidien de type navigateur, bureautique, musique, etc., sur ce qu'on peut faire d'habitude sur un Mac, vous et moi. Finalement, que ce soit un Mac M1 classique, M1 Max, M1 Ultra, finalement, il y aura exactement les mêmes performances parce que c'est toujours les mêmes cœurs qui sont sollicités et dans les mêmes proportions. Donc, finalement, peu d'avantages là-dessus.
Ça, c'est un élément sur lequel je veux bien qu'on passe un tout petit peu de temps parce que c'est vrai que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Tous les différents processeurs M1, en fait, ils ont la base du processeur qui va avoir un certain nombre de cœurs, qui va en avoir 7, 8. Dans le tout petit, le MacBook Air, il a 7 cœurs. Et après, ce qui va changer, c'est soit le nombre de cœurs de base, soit le nombre de cœurs du processeur graphique. Et le processeur graphique, vraiment, il sert que pour les tâches dont tu parlais, soit de la musique très exigeante, genre du montage, du séquençage, etc., soit du montage vidéo, soit du jeu. Mais soyons honnêtes, du jeu, il n'y en a pas énormément sur Mac. Je vais me prendre des tomates, mais ça reste une réalité objective. Mais bon, pour le montage vidéo, etc., on va servir d'autres choses, mais pour tout ce qui est navigation Internet, email, comptage, j'en sais rien, ce genre de choses, eh ben, le processeur M1, il est identique dans une utilisation monocœur, ce qui veut dire que un ordinateur MacBook Air qui a un tout petit processeur M1, eh ben, il va se comporter exactement de la même manière que un Mac Studio avec un M1 Ultra qui coûte 15 fois plus cher. Donc, si votre utilisation se limite à ce genre de cas d'usage, qui sera le cas de 80% des utilisateurs, il n'y a aucun désavantage à prendre un Macintosh plus petit. Le M1 sera le même pour ces cas d'usage absolument partout, quel que soit son prix. Donc, c'est très important à noter, tu as raison.
Je pense que pour le grand public, dans l'immense majorité des cas, un M1 Mac Mini, par exemple, enfin en tout cas un ordinateur équipé du M1, ce sera largement suffisant. Si vous avez des tâches d'export, de vidéo, de compilation de programmes, donc vous voyez, on commence à toucher du doigt des choses que monsieur et madame Michu ouais. font pas tous les jours, effectivement, ça peut avoir son intérêt. Donc le M1 Ultra est encore plus rapide que le M1 Max. Dernier point peut-être à souligner sur ces processeurs, c'est que sur la partie graphique, Apple a peut-être été un peu ambitieux dans sa présentation en comparant l'efficacité du M1 Ultra avec notamment l'utilisation d'une 3090, donc en gros une configuration PC vraiment sur stéroïdes qui permet de faire des performances graphiques assez incroyables. Et là, les tests ont l'air d'être assez unanimes en disant que ces promesses ne sont pas vraiment tenues et que sur la partie graphique, il faudra peut-être encore attendre quelques générations pour arriver vraiment à ce niveau-là.
Ouais, le dernier point, mais je crois que les benchmarks sont méchants hein, sur le...
Ils sont sévères sur la partie graphique parce qu'il y avait beaucoup de promesses aussi, je pense, de la part d'Apple et qu'en matière de processeurs, en général, ils tiennent leurs promesses. Là, clairement, ils manquent un peu leur objectif de l'aveu de tous ceux qui ont fait les tests. Il faudra évidemment voir dans le temps si jamais les prochaines générations arrivent à rattraper le gap. Il y a quand même le point de la consommation énergétique qui est indéniable et effectivement, là-dessus, ils gagnent.
Mais c'est limite sur ça qu'ils ont joué, même pour la partie graphique. Ils disaient, en fait, ce qu'ils avaient sur leurs graphiques, qui sont souvent, on va pas dire bidonnés, mais bien arrangés pour présenter leur processeur sous le meilleur jour. On avait la courbe du M1 qui était genre bien au-dessus de la courbe de la 3090, mais c'est parce qu'en abscisse, ou en ordonnée, enfin l'un des deux, celui qui monte, tu avais non pas la puissance brute, mais la puissance relative à la consommation thermique. Donc forcément, oui, ça allait beaucoup plus haut, mais bon, ce qui est étrange, c'est qu'ils auraient pu comparer ça à une 3070 ou une 3080, et ça aurait pu un petit peu plus tenir la route. Ils ne l'ont pas fait pour avoir une courbe qui monte plus haut, parce que ça le fait pas d'avoir une courbe qui est en dessous de celle des concurrents. Bon, ceci mis à part, il faut avouer qu'à part des utilisations très très spécifiques, là où, à mon avis, c'est vraiment intéressant ces tests de ce Mac Studio, c'est qu'on avait bien compris que le processeur M1 était puissant pour des ordinateurs portables parce qu'il, comme tu le dis, il consomme très peu d'énergie. Et il réussit à sortir une quantité de puissance absolument phénoménale par rapport à la quantité d'énergie qu'il consomme. Donc on se disait, OK, ils ont utilisé l'expertise qu'ils ont acquis avec les processeurs pour mobile. Donc on se disait, bon, ça marche très très bien pour un iPhone. On se disait depuis des années, un processeur d'iPhone récent, tu pourrais le coller dans un ordinateur, ça marcherait super bien. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. Le M1, ils l'ont conçu à la base pour un ordinateur. Donc il est amélioré par rapport à un processeur de téléphone, bien sûr. Mais dans un ordinateur portable, on était déjà impressionné par les performances. Il restait la question de, est-ce que ça va réussir la transition vers l'ordinateur de bureau ? Et là, ce qu'annoncent tous les tests, c'est que, effectivement, à part cette partie graphique, qui est alors encore plus cas d'usage anecdotique, mais pour toutes les utilisations dont on parle dans ce genre de cas, c'est-à-dire montage vidéo, compilation, etc., ça va genre deux fois plus vite que le plus gros des processeurs Intel de l'année dernière. Quoi. C'est vraiment, au niveau de la puissance, extrêmement impressionnant.
Et sans bruit. Et sans bruit, oui, c'est oui, un des points très importants à souligner quand on parle de la consommation énergétique, c'est que forcément le processeur chauffe moins. Et évidemment, vous avez un appareil qui ne va pas souffler des turbines pendant que vous faites un export de vidéo. Quoi.
C'est ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'ils ont vraiment réussi à dépasser Intel sur certains points. Quoi. Est-ce que c'est des processeurs à base ARM, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et on est vraiment sur des gains en termes de vitesse qui sont vraiment impressionnants. En l'espace de quoi ? En l'espace de quelques années ?
Ils ont commencé la transition il y a un an et demi, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais.
Non, non, c'est très, très impressionnant et ça provoque très certainement un changement radical dans la manière de penser les processeurs dans toute l'industrie, parce qu'en ce moment, AMD et Intel sont en train d'essayer de désosser les M1 pour comprendre comment ils marchent et faire la même chose. Et en plus de ça, ce que ça amène à Apple, c'est une maîtrise complète sur l'ensemble de leur écosystème. Ils maîtrisent le logiciel entièrement et le matériel à 90%, en tout cas entièrement les parties essentielles. C'est quelque chose qui est vraiment... je pense que pour le commun des mortels, c'est pas forcément aussi impressionnant que ça peut l'être pour nous, mais c'est une... C'est aussi important comme changement dans les produits qu'a pu l'être, l'iPod à l'époque, ou iTunes, ou le l'iMac, qui avait changé la manière dont on pensait aux ordinateurs, vous savez, les petits colorés, translucides, tout ça. C'est vraiment une étape au niveau de l'industrie qui est incroyable.
C'était le grand rêve de Steve Jobs, le fait de pouvoir maîtriser l'intégralité de la chaîne depuis le logiciel jusqu'au plus petit morceau du hardware. Et là, vraiment, on y est arrivé, je pense.
On y est arrivé, effectivement. Et surtout, ils y arrivent avec un énorme succès d'entrée de jeu, parce qu'ils auraient pu faire leur processeur depuis longtemps. Sans Steve Jobs, évidemment, la question se posait toujours, est-ce qu'ils vont réussir à continuer dans la même direction aussi bien, machin. Et évidemment, on a eu plein de questions, il y a eu plus ou moins de succès dans les produits qu'ils ont sortis, mais le M1, c'est avec cette confirmation que ça fonctionne vraiment, on s'en doutait, mais que ça fonctionne vraiment sur les ordinateurs de bureau aussi, c'est un pas de géant pour l'informatique. Alors peut-être que il faut dans le contexte des processeurs, hein, mais c'est un pas énorme, énorme. Oui, vas-y Guillaume.
Il y a un point en plus qui accentue encore ce que tu soulignes, Patrick, à mon sens. Quand tu regardes certains tests, et notamment c'est The Verge, hein, dans le cadre de leur vidéo, qu'ils soulignent très très bien, ils expliquent à quel point, en plus, là, dans les tests qu'ils ont faits, ils ont eu très très peu de bugs logiciels de partenaires tiers, notamment la suite graphique d'Adobe, qui concerne beaucoup les créatifs et donc les professionnels qui sont amenés à utiliser ce type d'appareil. Ils soulignent bien à quel point, aujourd'hui, cette intégration logicielle et matérielle, elle va jusqu'aux applications tierces, qui sont parfaitement optimisés pour ces processeurs d'une nouvelle architecture, ARM, et à quel point ça devient de plus en plus convaincant pour les utilisateurs. Donc, un très bon point aussi là-dessus, je pense.
C'est sûr. Et on a même des tests qui se font avec des applications qui vont installer une machine virtuelle de Windows, que ce soit Parallels ou c'est CrossCode, CrossSling, je ne sais plus. Mais en tout cas, Parallels, c'est-à-dire qu'on installe un Windows en logiciel avec une machine émulée sur le Mac. Et ça fait passer ça fait tourner des choses comme des jeux ou ce genre de choses quasiment aussi bien que s'il tournait en natif, alors que c'est deux fois émulé. C'est une fois émulé pour passer de Windows au Mac et ensuite d'Intel à ARM. La puissance vraiment, la maîtrise du début à la fin du matériel et du logiciel offre un avantage de performance et d'enveloppe thermique incroyable à Apple. Et il va falloir, comme à la sortie de l'iPhone, il a fallu des années pour que la concurrence les rattrape. Et là, ce n'est pas un truc qu'ils peuvent, d'une année sur l'autre, même si on a les processeurs Intel, les Alder Lake, qui utilisent une architecture avec processeurs puissants, enfin, cœur puissant et cœur moins énergivore, il va falloir des années pour vraiment essayer de rattraper le retard. Et ce qui est certain, c'est que tout le monde va passer à cette architecture ARM qui va réussir, enfin, plus ou moins, ou en tout cas la philosophie des processeurs ARM, pour essayer de consommer moins thermiquement et de garder cette puissance. Donc, c'est vraiment une grosse étape. Là où c'est un petit peu moins réussi, c'est sur les tests qu'on a du Studio Display, qui est donc leur moniteur entre guillemets, pas cher. Le moniteur à 1500 euros.
Voilà, c'est pas cher pour Apple.
C'est pas cher. Un moniteur à 1500 euros qui est... Alors, franchement, d'après tous les tests que j'ai vus, au mieux, il est correct. Il a des soucis quand même notables. Le plus gros d'entre eux, c'est la webcam, qui est visiblement assez médiocre, voire en dessous de médiocre. L'histoire d'avoir un bras ajustable, sur, enfin pas un bras, mais simplement le fait de pouvoir l'ajuster en hauteur, bah, ça coûte 400 euros de plus si on veut le truc qui vient avec. Et c'est même pas un truc qu'on peut ajouter ou enlever soi-même. Il faut le commander comme ça, sinon on peut pas le changer. Enfin, il y a plein de soucis. Le truc le plus intéressant de ce moniteur, je pense, c'est qu'il inclut un processeur A13, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, A13, et qu'il a, il tourne sous iOS, le moniteur a un OS sous iOS qui gère le cadrage de la webcam, etc., etc., et il a 64 gigas de stockage, donc dans la puce elle-même, hein, c'est le cas pour tous les processeurs de ce type, il a 64 gigas de stockage dans la puce, sans doute parce que c'est une puce d'iPhone qu'ils ont recyclée pour le mettre dans le moniteur.
Et malgré c'est pour prendre des photos de toi toutes les 10 secondes et les envoyer directement à Apple.
C'est ça, exactement.
10 années à venir.
donc ils ont bien besoin de 64 gigas de stockage pour ça. Bon, c'est clairement il semble un moniteur qui a été conçu il y a plusieurs années et c'est pas un truc qui est hyper recommandé aux utilisateurs. Il est pas lamentable, hein, ce moniteur, mais
c'est un des seuls à faire du 5K en fait, parce que c'est une résolution bien précise qui correspond au standard d'Apple, si j'ai bien compris. Et du coup, si tu veux une résolution 5K pour avoir du pixel perfect par rapport à ton Mac Studio, bah t'as pas trop le choix.
Ils sont rares, il y a un LG, je crois. Oui, Guillaume.
The Verge, c'est clairement la raison pour laquelle ils vont vous préconiser d'acheter cet écran. C'est justement pour la résolution 5K. Tous les autres arguments ne sont pas vraiment tenables, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais ce qui est assez rigolo, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais c'est marrant de voir à quel point ce Mac Studio est emblématique de ce que peut attendre l'utilisateur et il lève plein de frustrations. Un truc tout bête, le fait qu'il y ait des ports en façade sur un Mac, mais c'est du jamais vu chez Apple. C'est incroyable. Ils ont vraiment pensé utilisateur. De voir à quel point il y a cette vision. Alors, module low, l'intégration qui fait qu'on peut rien changer comme tu le disais, mais qui est pensé utilisateur, et inversement ces écrans qui sont quand même l'archétype des frustrations que peut proposer Apple quand ils ne pensent qu'à eux, quoi. La différence entre les deux est remarquable, je trouve.
Ouais. Je suis assez d'accord.
La bonne nouvelle, c'est que je crois qu'ils te donnent la chiffonnette à 25 euros avec l'écran.
Si tu as la version nano texturée uniquement.
D'accord. Okay.
Si tu as la version nano texturée, c'est...
Ah, ils perdent pas le nord.
Ah oui, c'est clair. Donc bon, on l'a bien compris. Le Mac Studio, vraiment grosse réussite. Le Studio Display, au minimum perfectible. Il faudra attendre une version nouvelle pour le considérer. Alors, il a des trucs sympas. Hein. Le son est pas mauvais pour un écran si plat, etc., etc. Mais c'est le genre de choses qui sont pas hyper intéressantes pour une machine de ce type-là. Les 5K sont le truc qu'on va... Qui va être un argument d'achat, ce qui est quand même un petit peu
ironique. C'est qu'ils aient merdé la webcam, parce que partout, j'ai lu 2-3 articles, et à chaque fois, la webcam n'a vraiment pas l'air d'être terrible, alors que ça avait été vachement mis en avant par Apple sur le fait justement qu'elle avait son propre processeur et tout. Alors ça permet de recadrer en permanence au milieu de la caméra, mais bon, est-ce que c'est un argument pour...
Bah, non, clairement, et visiblement, Apple a répondu, il semblerait que ça soit... Ils disent oui, effectivement, c'est pas normal. On va travailler dessus et via une mise à jour d'iOS, puisqu'il faudra mettre à jour le moniteur, ils pourront sans doute, possiblement régler ce problème. On attendra avec grande impatience qu'ils le fassent. Mais effectivement, c'est possiblement un souci logiciel. Donc bon. Écoutez, je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ces choses-là. Il y a quelques rumeurs, puisqu'on parle d'Apple. On a l'iPhone 14 de cette année qui garderait l'encoche, mais l'iPhone 14 Pro qui aurait des plus grandes différences avec l'iPhone 14 qu'on ne l'a eu dans la gamme généralement. L'iPhone X et X Pro sont très très proches. Là, il y aurait plus de différences, et notamment le fait qu'on n'ait plus l'encoche pour Face ID, mais... un double poinçon, donc d'une part un rond, et juste à côté une sorte de petite pilule qui arriverait sur l'iPhone 14 Pro, et donc l'encoche disparaîtrait, mais pour avoir ces deux petits éléments, dont certains penseront qu'ils sont peut-être un petit peu disgracieux, mais qui prennent moins de place. Et Apple serait en train de tester des fenêtres flottantes sur iPadOS, mais des fenêtres flottantes dans des conditions particulières. Donc, ça veut dire que les fenêtres pourraient être déplacées, hein, les apps pourraient être dans des fenêtres, un petit peu comme dans un OS classique, Windows ou macOS. Ça serait dans des cas spécifiques, je crois que c'est uniquement quand il est branché avec un clavier ou ce genre de choses. Mais bon, c'est en cours de test, ça s'appelle Apple Mixer, ce test. Dieu sait si ça arrivera dans la pratique dans l'OS cette année ou une année à venir. Et puisqu'on parle d'OS, je me suis dit qu'on pouvait peut-être dire un mot sur Android 13 et avec un petit peu de malice, j'ai sous-titré Mac Studio, tout le monde l'aime, point d'interrogation, et Android 13, tout le monde s'en fout, point d'interrogation. Et je suis sûr que certains me reprocheront mon manque d'objectivité.
Mon parti pris, horrible.
C'est ça, c'est ça. Mais il faut avouer que pour tout un tas de raisons, les mises à jour d'Android sont plus du tout mises en avant, à la fois par Google, qui en parle assez peu. Il y a des éléments qui sont au minimum moins bien marketés par Google que par Apple, qui en fait tout un plat, même quand ils disent « on a rajouté un widget, rendez-vous compte, c'est révolutionnaire, machin ». Eh bien, en plus de ça, le fait que les mises à jour n'arrivent pas sur tous les téléphones Android, etc., c'est moins la fête que sur iOS. Mais du coup, moi, j'ai là, parmi les co-animateurs, un utilisateur d'Android.
Tout à fait.
Est-ce que tu es excité par l'arrivée d'Android 13 ?
Eh bien, écoute, tu as un peu raison. Je m'en fous un peu pour une raison assez simple. C'est que généralement, sur Android, les mises à jour, c'est à peine si je les vois, quoi. Je les lance, alors je remarque 2-3 trucs. Effectivement, il y a des petites nouveautés au niveau de l'interface. Tu as des fonctions en plus. Mais franchement, souvent, c'est assez invisible. Et il y a aussi une raison pour ça, c'est que Google ne fait pas des énormes keynotes comme peut... une keynote chez Apple, c'est un événement. Il y a le nouveau téléphone, il y a une nouvelle fonction. Android et Google, bon, ils ont l'air un peu de s'en foutre, de se dire, bon, ben voilà, on fait les mises à jour, il y a des nouveautés, elles sont annoncées, mais il n'y a pas le ramdam qu'il peut y avoir chez Apple.
C'est sûr. Eh bien, écoute,
Patrick,
je pense que... Oui, dis-moi.
Il faut que tu prépares ton jingle, s'il te plaît, de l'avocat du diable, parce que là, c'est le moment de le faire, je pense. C'est indispensable.
Est-ce que tu veux prendre ce rôle, du coup, Guillaume ?
Ah, écoute, je veux bien, vas-y.
Ok, très bien.
Lance-le et j'enchaîne, vas-y.
Donc maintenant, attention. Vas-y, Guillaume.
Ah, magnifique.
On pourrait dire aussi que Android, si jamais on se fout autant des mises à jour, c'est qu'il est déjà parfaitement satisfaisant depuis très longtemps. et que du coup, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sont tellement superflues par rapport à l'essentiel d'utilisateur. Derrière la blague, est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai malgré tout ?
Non, mais bien sûr. Bien sûr, mais c'est le cas pour l'OS d'Apple aussi. Je veux dire, iOS, il est pas, enfin, les dernières mises à jour sur, on va dire les 3, 4, 5 dernières années même, étaient relativement anecdotique. J'irais même jusqu'à dire que sur iOS, ça a ajouté de la complexité. Le rapport complexité bénéfice à l'utilisateur est quand même largement réduit aujourd'hui. Il rajoute presque des fonctionnalités pour le principe, quoi. Mais les deux, hein.
Plus on avance effectivement dans les téléphones, dans les années, plus le gap d'une génération à l'autre est minime. Ouais. On est arrivé à un tel point. Et puis, c'est vrai qu'aussi qu'on commence à avoir l'habitude au début, quand on avait un téléphone portable, on a eu les premiers iPhone, les premiers Android, on s'amusait sans arrêt à installer des apps, on essayait de découvrir des nouveaux trucs. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous une utilisation qui est plus raisonnée, on sait dont on a besoin sur son téléphone, on installe les mêmes applications, ça se fait quasiment automatiquement quand tu passes d'un téléphone à l'autre. Et il n'y a plus cette joie de la découverte, si tu veux, et cette attente qu'on avait parce qu'on voyait des choses fantastiques d'une génération à l'autre. C'est effectivement plus le cas depuis des années, quoi. Et c'est vrai que sur un téléphone, pourtant j'ai un petit Xiaomi qui me tient depuis 2 ans et demi et qui n'est pas fantastique, mais il me convient très bien et je ne suis pas dans l'attente. Il n'y a pas quelque chose qui me manque, si tu veux, dans l'utilisation que j'ai de ce téléphone.
Je crois que c'est là aussi un truc qu'on peut rapprocher du business model, du modèle d'affaires des deux boîtes. Google, tu utilises leur appareil, ils font de la pub sur Internet et donc ils récupèrent des sous et des données. Donc ils sont contents que tu sois sur le dernier OS ou pas. À la limite, c'est pas leur problème de vendre des téléphones. Par contre, Apple, leur business model est entièrement basé sur le fait que tu renouvelles ton parc de matériel, enfin que toi-même, personnellement, tu achètes des nouveaux téléphones, des nouvelles watches, etc. Et donc, évidemment, ils en font plus de bruit quand ils ajoutent, imaginez-vous, maintenant, vous allez pouvoir utiliser deux apps en même temps sur iPad. C'est fou, c'est incroyable, c'est révolutionnaire, voilà, tout ça.
Mais même au niveau des keynotes Apple et tout, j'ai l'impression qu'il y a moins la hype qu'il pouvait y avoir il y a encore quelques années où tout le monde attendait ça avec impatience. Aujourd'hui, ok, il y a des nouveautés, mais...
C'est vrai. Disons qu'on l'a vu avec le M1, par exemple, il y a quand même des trucs qui peuvent surprendre, mais c'est autant, je dirais, une excuse pour se réunir et être en même temps en train de regarder le même truc et avoir une sorte de fête geek que pour vraiment attendre les nouveautés d'Apple. Là où, je dirais, pendant quelques années, pendant même une dizaine d'années, toute l'industrie regardait Apple parce que c'était intéressant de voir ce qu'ils allaient annoncer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a cet enthousiasme qui reste chez les utilisateurs d'Apple. Et d'ailleurs, on m'a reproché la semaine dernière de dire peu de bien ou de ne pas comprendre à quel point les annonces d'Apple de la conférence étaient incroyables et enthousiasmantes et tout. Et elles le sont pour les gens qui sont dans cet écosystème. La différence, c'est que il y a quelques années, c'était pour... Même ceux qui n'étaient pas dans cet écosystème étaient hyper intéressés. Maintenant, on attendra de voir ce que nous réservent les années à venir. Et clairement, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus inside baseball, comme le M1, qui nous font exploser le cerveau quand on sait un petit peu de quoi il en retourne, quoi.
Il y a un point aussi qui est à la faveur d'Apple par rapport à ça versus Android, c'est qu'Android, ça reste des mises à jour sur des appareils relativement, entre guillemets, cloisonnés, comprenez-moi sur cette expression, quand je le compare avec les produits d'Apple qui sont présentés un peu plus maintenant comme étant des parts d'un écosystème. Et tu l'avais mis dans le conducteur, et on va juste l'évoquer, mais Universal Control, la fonctionnalité qui fait que, grosso modo, sans configuration particulière, tu as ton clavier souris qui passe de ton Mac à l'iPad de manière transparente. Honnêtement, quand tu l'utilises, c'est complètement bluffant. Et pour l'utilisateur, ça peut apporter des vraies solutions. Ça reste encore un peu complexe dans l'approche, mais c'est très convaincant. Et je pense que ça aussi, ça permet à Apple d'émerger peut-être.
Oui, puis il faut être à 100% sur l'écosystème Apple. C'est-à-dire
c'est
à la fois ton
Mac...
Le
type de départ est très clair.
Voilà, c'est clair.
Ouais. Et c'est effectivement technologiquement une solution qui est très impressionnante. Hein. On passe de l'écran du Mac à l'écran de l'iPad, mais pas simplement en utilisant l'écran d'iPad comme écran secondaire pour le Mac, comme ça a pu être le cas par le passé avec des solutions tierces ou sidecar, ce genre de choses. Mais on utilise vraiment les périphériques, donc clavier souris, de l'un pour contrôler l'OS de l'autre. Et ça, effectivement, c'est technologiquement un truc très impressionnant. Mais oui, on l'a dit, c'est des trucs, quand je disais, c'est des trucs qui sont enthousiasmants pour les gens qui sont déjà dans l'écosystème. Tu l'illustres très bien avec cet exemple.
Ouais,
mais...
au-delà de ça, même combien de pourcentage de personnes qui sont dans l'écosystème ? Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas forcément l'utilité ou qui même ne savent même pas que ça existe.
C'est
plein de personnes qui ont à la fois un Mac, qui ont à la fois un iPad, un iPhone, mais qui n'utilisent pas vraiment 10% de toutes les fonctionnalités que tu peux avoir.
C'est sûr, oui. C'est très, très niche, c'est certain. Un truc qui n'est pas niche du tout, par contre, c'est la manière dont vous pouvez soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Ça, c'est un truc universel. C'est Universal, pas contrôle, mais Universal Patrick. Non, Universal Soutien. Voilà, Universal Soutien sur patreon.com/rdvtech pour avoir simplement le plaisir, le bonheur, la joie de soutenir un créateur que vous appréciez. Par exemple, Patrick, au hasard. Vous pouvez aller sur Patreon et vous aurez droit à plein de bonus super sympas. Vous aurez l'absence de pub, l'absence même de ce petit laïus au milieu. Vous aurez aussi les contenus bonus comme l'after show où vous aurez aussi des épisodes spéciaux. Vous avez également les time codes qui sont dans les épisodes. Si vous n'appréciez pas particulièrement les discussions sur Apple, vous pouvez les sauter, etc. etc. C'est le moyen de soutenir l'émission, vraiment. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous écoutez depuis quelques mois, quelques années même, pourquoi pas ? Pourquoi pas réserver, allez, 1 € par semaine, c'est pas la fin du monde. Évidemment, il y a des gens qui peuvent pas se le permettre et jamais je ne voudrais inciter ceux qui sont dans des situations compliquées à investir de l'argent dans ce genre de choses, c'est vraiment pas la peine. Mais par contre, si vous avez quelques euros en plus ou que vous voulez réduire votre consommation de café ou de sucrerie et vous dire je vais les investir dans un contenu que j'apprécie, eh ben vous pouvez passer sur patreon.com/rdvtech et soutenir le Rendez-vous Tech comme le font déjà de très nombreux patriotes. avec qui on interagit d'ailleurs sur le Discord. C'est une belle famille, un groupe, une communauté vraiment bienveillante et sympathique. Donc, vous pouvez nous rejoindre, que vous soyez patriote ou pas d'ailleurs. Mais si vous êtes patriote, on vous aime un petit peu plus hein, quand même, je l'avoue. Donc, quand vous rentrez chez vous ce soir, qu'est-ce que vous faites ? Vous enlevez les chaussures et puis vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là, vous dites « Oh, j'ai failli oublier Patrick ». Heureusement que ces clés ont fait cling dans le bol et que je m'en suis souvenu. Donc, cling Patrick et vous allez sur patreon.com/rdvtech. L'URL est dans les notes de l'émission. On va dire, vous pouvez même le faire sur votre téléphone mobile maintenant, tout de suite dans le métro. Hein, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Chez vous, c'est possible aussi. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on va continuer avec le reste de l'actualité. Le reste de l'actualité, on redevient un petit peu sérieux. Hein. On va parler notamment d'un deepfake de Volodymyr Zelensky qui a émergé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours de ça, qui a très rapidement été repéré et supprimé de la plupart des réseaux sociaux. C'est intéressant parce que ce deepfake... En fait, c'était donc un deepfake, donc une vidéo artificielle créée par intelligence artificielle, dans laquelle le président ukrainien appelait les soldats ukrainiens à déposer les armes et il disait que la guerre était terminée. Et il les appelait donc à déposer les armes. C'était une vidéo qui était assez facilement identifiable. Il a le regard un peu vide, il y a des artefacts vidéo sur autour du visage, la voix même est un petit peu étrange. Mais c'est la première fois qu'un deepfake est utilisé dans un conflit et c'est un petit peu le scénario cauchemar, le scénario catastrophe pour ce type de technologie. Et on peut imaginer qu'à terme, les choses soient plus convaincantes et que du coup, ça puisse avoir un effet plus important. C'est une première, c'était une crainte qu'on avait tous à un moment, à vrai dire, même pas une crainte, mais on savait que ça allait arriver.
On s'y attendait quand même beaucoup.
Hein. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, il faut en avoir peur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas qui... Ouais. Je vais pas imposer, mais...
Ben écoute, moi je dirais que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, parce que dès qu'on a vu les premiers deepfakes, ça remonte à quoi maintenant, 3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Les possibilités derrière étaient absolument effrayantes, et plus la technologie avance, alors là effectivement c'est assez mal fait, et on peut dire que c'est pas ce qui pouvait être fait de mieux, mais c'est quand même intéressant, dans le sens où je pense qu'on va arriver sur un modèle, si tu veux, où on ne pourra plus avoir confiance quasiment en rien. Parce que là, on est encore très loin de ce qui va pouvoir être fait dans le futur. J'imagine que dans 3-4 ans, on aura beaucoup de mal à distinguer des vraies vidéos de fausses vidéos. On a déjà eu des exemples, hein, des choses qui étaient mieux faites sur des acteurs, sur des présidents.
Oui, tout le monde a vu celle de Tom Cruise, la série, qui était impressionnante.
Oui, tout à fait. Et c'est tout le problème des fake news, en fait, qui aujourd'hui va s'appliquer à la vidéo et à l'audio. Et se dire que malheureusement, tout le monde n'aura pas les connaissances nécessaires et le background nécessaire pour se dire « Ah, mais en fait, c'est peut-être faux. » on voit très bien comment ça peut être exploité dans le cadre d'un événement aussi dramatique que cette guerre. Et malheureusement, je crois que ça ne va pas être la dernière qu'on va voir.
Ça, c'est à peu près certain. Moi, je suis un petit peu moins pessimiste sur la question parce que celle-ci, elle a été repérée très très vite, elle a été identifiée très très vite. J'ai presque l'impression que tout ce dont on parlait depuis des années à propos des deepfakes et les processus qu'on a mis en place sur les réseaux sociaux, etc., eh ben, ils ont fonctionné là avec ce deepfake, ils ont été retirés très vite. Alors, il y a eu une centaine de milliers de vues sur Twitter, donc c'est pas rien, mais les gens, avec ces exemples qu'on a eus avec Tom Cruise notamment, tout le monde en a parlé, c'était un petit peu aux 20h, hein, j'exagère, mais à peine. Et du coup, les gens comprennent que ça peut arriver, et j'ai presque l'impression, alors évidemment, on va toujours trouver des gens pour croire à tout, mais j'ai un peu l'impression que, à force, on est en train d'acquérir la, je ne sais pas comment on dit en français, le media literacy, donc les connaissances, la maîtrise des médias nécessaires à au moins se poser la question.
Alors, dans notre société, oui. Maintenant, il faut se poser la question aussi de comment des vidéos manipulées comme ça apparaissent au public, par exemple en Russie ou en Chine, où aujourd'hui, tu n'as plus accès à Twitter, tu n'as plus accès à Facebook. Et c'est une vraie question aussi par rapport à ça.
Bah, je dirais que en Russie ou en Chine. Vas-y, pardon, Cédric.
Non, mais c'est juste que pour dire que nous, on a le background, et effectivement, les réseaux sociaux sont intervenus vachement vite, ont retiré la vidéo, encore qu'on peut la trouver un peu partout. Mais ce n'est pas forcément le cas partout, et j'ai peur que, autant nous, on est bien informés, et on se doute, on voit tout de suite qu'il y a un souci sur une vidéo comme ça. Je ne suis pas certain que ce soit le cas pour tous les publics.
Alors, tu évoques la Russie ou la Chine. Là, c'est encore un autre problème, parce que les médias sont tellement contrôlés qu'ils n'ont aucune...
Oui, de toute façon, oui.
Et ce que ça évoque encore plus, à mon avis, dans la direction dont tu parles, c'est qu'il y a une nécessité d'éditorialisation, ou au moins de sélection et de mise en contexte par les médias. Les médias ou, enfin, à peu près tout, ceux qui relayent des informations. Et il faut, ce qu'il faut, c'est que les gens qui voient se posent la question, et ensuite la légitimité vient de ce qu'on, enfin c'est un petit peu comme les photos qui sont photoshopées depuis longtemps. Quand il y a un truc qui nous paraît bizarre, on se dit attends, est-ce que c'est vrai ou pas? Un truc qui nous paraît normal, on se pose pas forcément la question, et puis on va ensuite confirmer ou infirmer peut-être avec les informations de médias réputés auxquels on fait confiance. Quand c'est un truc suspect, on va peut-être plus rapidement aller chercher la confirmation. Et il y a des sortes de prescripteurs de validité, de confirmateurs, qui vont dire si effectivement c'est un truc qui est fiable, confirmé ou pas. Et c'est un petit peu le boulot des médias depuis longtemps.
Ouais, tout à fait. Ouais, et ils font un boulot fantastique. France Info, par exemple. Il y a une émission spécialement sur les fake news, ils ont des rubriques là-dessus.
Les médias, on a les décodeurs, les plusieurs rédactions ont des équipes dédiées à ce genre de choses. Et c'est, ça me conforte un petit peu dans mon idée que ces, je sais pas, 5-10 dernières années, on s'est entraîné à ça en fait. Et maintenant, on a un petit peu plus. Alors évidemment, encore une fois, il y a toujours des gens pour croire à tout, mais on a plus la machinerie, l'écosystème pour gérer ce genre de problématiques.
Oui, mais j'espère que ça marche, parce que d'un autre côté, je me dis qu'il y a, j'ai l'impression que les mouvements complotistes, les gens ne croient plus à rien, et que malheureusement, certains sont dans un mouvement de pensée qui fait que même si tu as des émissions comme ça, si tu veux, ils sont totalement bloqués et ils ne vont pas y croire. Et c'est un peu ça qui me fait peur.
Je crois que l'une des choses dont on parle souvent, c'est que les mouvements de fake news ne sont pas forcément là pour faire croire à la fake news spécifiquement, mais pour amener tellement de chaos et d'incertitudes que les gens n'auront plus croire à la vérité non plus. Effectivement, c'est un truc. Mais ce qu'on constate avec cette guerre en Ukraine, c'est que les choses, alors ça ne veut pas dire qu'elles sont aussi bien gérées partout, tout le temps, et dans des conflits de moins grande ampleur qui provoqueront des drames également, mais on a vu par exemple que les renseignements américains ont partagé leur analyse de ce qui allait se passer avec justement les fake news. Ils disaient, ils disent qu'ils ne vont pas rentrer en Ukraine. Là, il y a tellement de troupes qui vont rentrer. Ils vont dire qu'ils vont trouver, qu'ils auront trouvé des laboratoires chimiques pour utiliser eux-mêmes des armes chimiques. Bah, effectivement, ils ont dit qu'ils avaient trouvé des laboratoires chimiques qui n'existent pas. Enfin, ce genre de choses. J'ai l'impression que ça fonctionne au moins là où on était complètement désemparé il y a 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Et bien là, au moins, on a des cordes auxquelles se raccrocher. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oh, vous avez tout dit. Je trouve que c'est effectivement, il y a deux façons de le voir, hein, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Dans le verre à moitié plein, dans la partie moitié pleine du verre, il y a, je voulais réagir, peut-être il y a Rujan qui dit dans la chatroom, à l'avenir, ce sera de plus en plus difficile de les détecter. Et en fait, je ne suis pas sûr, justement, je pense que ce que vous dites souligne bien à quel point, d'une part, il va y avoir, on l'espère, en tout cas dans nos sociétés, dans lesquels on évolue, une éducation de plus en plus grande à ce type de phénomène et à ce type d'usage. Et puis, je pense aussi, d'un point de vue technologique, ça va être de plus en plus facile de détecter les deepfakes. Alors évidemment, ce sera le jeu du chat et de la souris. Hein. Ils vont s'améliorer et puis ce sera de plus en plus dur de les détecter. Mais au global,
il y a des algorithmes déjà qui sont entraînés à détecter les petits défauts graphiques qu'on ne repère pas forcément à l'œil nu, mais qu'un ordinateur peut voir, ce qui est bon, une matrixisation du truc. Mais ouais.
Non, effectivement, il y a les reflets dans les pupilles, par exemple, ou les manières dont sont restituées les lunettes. Bref, enfin, en tout cas, il faut regarder ça en observateur et pas paniquer pour l'instant, en tout cas, je pense.
Ce que je dirais en conclusion de ce sujet-là, c'est que effectivement, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Il y a quelques années, face à ce type de fake news et technologie, on était juste avec un verre entièrement vide. Donc, ouais. C'est peut-être, ça va peut-être dans le bon sens. Et c'est peut-être mon impression et mon biais, mais j'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens, avec ce conflit, ont appris de la crise du Covid et plaisantent même de leur propre supposée expertise sur différents sujets. Genre, j'ai lu deux articles sur le variant Omicron et maintenant, j'explique au monde sur Twitter comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on a vu plein de gens qui plaisantaient de cette tendance qu'on a tous hein, peut-être à faire, mais qu'on a maintenant comprise et un petit peu plus analysée. Et des gens qui disaient « bon, j'abandonne ma carrière de spécialiste en épidémiologie et je me reconvertis désormais en spécialiste en géopolitique ». Tu vois, les gens sont conscients, beaucoup de gens ont appelé à ne pas partager des informations non vérifiées ou même à ne pas donner leur avis alors qu'ils n'étaient pas experts. Je trouve que l'information autour du conflit en Ukraine a été quand même incroyablement sain par rapport à ce qu'on a vu il y a… Mais de tout le monde, hein, tu sais, c'est un trait personnel qu'on a découvert en fait ces dernières années en se rendant compte qu'avec les réseaux sociaux, on était tous poussés, incités à se transformer en experts et à diffuser des informations dont on n'était nous-mêmes pas sûrs, mais on ne le savait pas forcément, on ne s'en rendait pas compte. Et là, avec le conflit, la guerre en Ukraine, on s'en rend beaucoup plus compte. Donc, je trouve que ça va dans le bon sens.
Ça va dans le bon sens, mais on est aussi bloqué dans une bulle, si tu veux, où en fait autour de nous, on connaît des gens qui vont pas tomber dans ce genre de piège et qui effectivement vont analyser les informations, les vidéos, etc. Malheureusement, je pense aussi qu'il y a il y a des personnes qui sont moins éduquées à ce genre de choses et qui elles risquent de tomber là-dedans. Et c'est un peu ce qui me.
Voilà. Oui, bien sûr, mais ça, il y en a toujours eu et il y en a encore évidemment. On a vu d'ailleurs une campagne de désinformation assez massive. Je sais plus qui a fait c'est en Slovaquie, voilà. Numérama a fait un papier assez intéressant sur la campagne de désinformation en Slovaquie qui a été évidemment massive avec la Russie, et on a quelque chose comme 40% des Slovaques qui souscrivent aux thèses complotistes russes. Parce qu'il y a une telle... Évidemment, c'est évidemment un problème, et je ne dis pas qu'il n'y a personne, mais à vrai dire, il y en a toujours eu, il y en a peut-être plus maintenant, mais j'espère que ça va effectivement dans le bon sens. Toujours dans la chatroom, on nous dit, tout le monde sait qu'il y a une solution au problème actuel, le patrixme. Pourquoi discutons-nous encore de tout ça ? C'est très très simple, on décide que c'est Patrick qui a toujours raison. Voilà, ça règle tous les problèmes.
C'est une solution dans laquelle tu ne peux pas te tromper.
C'est ça, voilà, exactement. On ne peut pas se tromper parce que la seule opinion valable, c'est la mienne. Non, mais je suis le chef du monde et c'est moi qui décide. Donc, on sait que quand je décide quelque chose,
président.
C'est bon. Voilà, du monde. Bon, on va quitter un petit peu. Ah oui, un autre mot sur la Russie. On va aller un petit peu plus vite sur les news suivantes. Oui, Starlink, on en parlait dans les épisodes précédents de l'utilité de Starlink en Ukraine et des dangers potentiels. Mikhailo Fedorov a annoncé, c'était dans une interview avec le Washington Post, je crois, qu'ils utilisent Starlink et qu'ils ont plusieurs milliers de terminaux et que ça leur est extrêmement utile. Donc, bon, écoutez, pour une fois, Elon Musk aurait peut-être fait le bien qu'il avait annoncé et ils utilisent beaucoup Starlink et ils mettent à jour Starlink pour éviter les brouillages du côté des bureaux aux US, etc. Donc, ça fonctionne pas mal. Et à côté de ça, OneWeb, qui ne peut plus utiliser les services de Soyuz, évidemment, pour différentes raisons, se met à travailler avec SpaceX. OneWeb est un concurrent de Starlink. SpaceX est une société d'Elon Musk, qui est également président de Starlink. Donc, c'est intéressant de voir que Elon Musk, évidemment, continue à prendre de l'importance un petit peu partout, mais que OneWeb va travailler avec SpaceX. C'est quand même fou, hein. Tesla, on en parle beaucoup dans l'épisode sur les véhicules électriques la semaine prochaine. Tesla, SpaceX, Starlink, il y a d'autres trucs qui fonctionnent moins bien, mais il a réussi quelques trucs, le petit Musk. Bon, si vous voulez avoir une angoisse par rapport au processeur, j'ai un truc pour vous. Est-ce que, Guillaume, tu connais ASML ? Est-ce que tu sais ce que c'est ?
Non, qu'est-ce que c'est ASML ?
Alors, ASML, c'est pas ASMR, c'est une société hollandaise qui fabrique les machines lithographiques qui servent...
Ah, mais oui, pardon, bien mais sûr, oui. Excuse-moi.
C'est ça. Qui sert, c'est quoi ? C'est ultra light voltage. Je ne sais plus quelle est la technologie utilisée pour les puces les plus récentes avec la plus grande finesse de gravure. En fait, il y a une société au monde qui fabrique ces machines. Et ces machines sont dans les usines de fabrication de puces. Et c'est évidemment un élément central de la fabrication. C'est elles qui les font. Donc, sans ces machines, il n'y a pas de puces. Eh bien, ils ont un énorme problème d'approvisionnement et ils disent qu'ils vont avoir du mal à suivre la demande. Alors, ils continuent à augmenter la production de leurs machines, mais il y a eu des augmentations de demandes de plusieurs dizaines de pourcents et donc, ils ne vont pas pouvoir livrer tout le monde parce qu'ils ont quelque chose comme 200 fournisseurs et sur ces 200, il y en a une quarantaine qui sont absolument critiques pour leurs machines et ils ne peuvent pas augmenter la production aussi soudainement chez les fournisseurs et contrôler les fournisseurs, etc. Donc, ils préviennent que leurs machines ne pourront pas suivre la demande. Et du coup, donc ils disent jusqu'en 2024 environ, et du coup, toutes les usines qui sont en train d'être construites maintenant depuis 2 ans, elles risquent de terminer leur construction et de ne pas pouvoir tourner parce qu'elles n'auront pas de machines lithographiques d'ASML. Et donc, ça sera des usines qui ne servent bon, peut-être pas à rien, mais qui ne pourront pas faire... Alors, c'est spécifiquement les toutes dernières puces, les 5 nanomètres, 3 nanomètres, etc. Mais il n'empêche, c'est celles certaines dont on a beaucoup, largement besoin. Donc, voilà, si vous étiez angoissé par la rupture des puces, ça risque de ne pas s'améliorer avant un bon moment, quoi.
Entre ça et les reconfinements à travers le monde, notamment en Chine, etc., c'est vrai que la crise des composants, on s'imaginait qu'on était sur un début de progressivement s'orienter vers la fin des problèmes, même à moyen terme. Et honnêtement, quand tu regardes tous les signaux, il y a quand même de quoi avoir très, très peur globalement.
Ouais. Quelques petites news en vrac. Vous partagez votre mot de passe Netflix, Guillaume, sois honnête.
Jamais.
Sois honnête.
Jamais. Au sein de mon foyer uniquement.
Au sein de ton foyer, d'accord, très bien. Eh bien, écoute, donc tu seras épargné par ce qui va peut-être arriver dans quelques temps. Netflix est en train de tester une option en Amérique du Sud essentiellement, mais pour ajouter un membre de votre famille, enfin un membre qui utilise votre abonnement Netflix pour une somme modique, mais pour une somme tout de même, de manière peut-être à limiter le partage des mots de passe. Donc ça risque d'être implémenté plus tard dans le monde en général. Spotify a signé un deal avec le FC Barcelone qui inclut notamment le fait de rebrander leur stade en Spotify Camp Nou. Je crois que ça se lit comme ça. C'est à peu près 310 millions de dollars. Quand ça commence à prendre des sponsors d'équipes de foot, et genre du FC Barcelone, tu te dis que là, il y a quand même de l'argent et des enjeux. C'est assez impressionnant. Entre parenthèses, Cactus Leader nous dit qu'il regarde cette émission en ce moment par Starlink dans la chatroom. Donc, il utilise Starlink depuis 8 mois. Et bon, évidemment, c'est un peu cher, mais sinon, il en est très satisfait. Il n'a pas d'autre connexion chez lui. Donc, écoute, nous sommes dans le futur. Cactus, tu es avec nous dans ce futur incroyable que nous permet Starlink. Oui, donc Spotify, FC Barcelone, voilà, 310 millions de dollars pour eux. Et Amazon a conclu son acquisition de la MGM. Vous dites, ah ouais, la MGM, c'est énorme, effectivement, gros studio de cinéma. Ils font quoi, la MGM? Et personne ne s'en souvient. Effectivement, il faut avouer que ce n'est pas les trucs les plus modernes et incroyables qui soient. Alors, il y a James Bond, mais James Bond, il y a la famille de, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a aussi un droit de regard sur absolument tout.
C'est
donc, c'est James Bond, mais une partie quand même, mais pas 100%. Il y a quand même Rocky et Creed, qui sont pas mal. Il y a des trucs comme Robocop. Il y a des choses de ce genre-là. C'est des trucs qui pourraient être développés par Amazon, mais bon.
C'est des trucs qui sentent la VHS quand même. Hein. C'est pas le genre de truc que t'as vu récemment sur ton écran. Enfin,
oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est marrant parce que ça montre à quel point, bon, on l'avait constaté au moment de l'achat, hein, de l'annonce du rachat, ça montre à quel point les sociétés de contenu ont besoin de contenu, justement. Et puis, je vais dire une dernière chose avant qu'on ne commente tout ça. Tesla, encore eux, a fini de construire son usine en Allemagne. Donc, certains modèles, très rares encore aujourd'hui, qui seront vendus en Europe, viendront de ces usines allemandes. C'est la Gigafactory 4 qui sort ses premiers modèles là, ces jours-ci et d'ici la fin du mois. Donc, Netflix, Spotify, Amazon, Tesla, vous avez le choix de ce que vous voulez commenter ou pas. Siegfried, est-ce que tu as un commentaire sur l'un de ces trucs ou est-ce qu'on parle de Twitter? Siegfried est complètement muétifié.
On a perdu Siegfried.
On a perdu. Il était sur Starlink. Oui, il a perdu le micro de son côté.
À deux.
Oui,
à deux.
Tu es revenu.
Ah, tu m'entends?
Oui.
D'accord, eh ben, écoute, parfait. Non, je me demandais juste par rapport à Spotify, si, parce qu'ils gagnent de l'argent, j'ai l'impression qu'ils sont toujours, qu'ils ont perdu de l'argent depuis des années et qu'ils sont toujours très loin de faire du bénéfice, quoi.
Ah bah ça, j'ai pas regardé les bénéfices spécifiquement de Spotify, mais c'est pour ça qu'ils poussent les podcasts, des contenus pour lesquels ils n'ont pas besoin, ils mettent de la pub et ils n'ont pas besoin de rémunérer les ayants droit de la musique.
Oui.
Je serais pas surpris que ça soit une phase encore où ils sont en train d'essayer de grossir encore plus et ils ont un petit peu de concurrence. Et du coup, oui, ils ont des dépenses marketing importantes pour que les gens se disent « Ah mais si j'utilisais Spotify ?» C'est un peu dans cette orientation, je pense.
Ouais. Eh ben écoute.
Tac, on va sauter ces quelques petits sujets-là. Non, vous savez quoi, on va les mentionner. Twitter a commencé à parler de la manière dont ils vont gérer les tweets au moment de l'élection en France. Et ils ont décidé que pour tout ce qui est des fausses informations à propos de la participation aux élections, ils vont supprimer les tweets tout de suite. Par contre, pour des choses un petit peu moins claires, comme par exemple les tweets qui vont saper la confiance dans l'élection ou dans ses résultats, ils resteront en ligne, mais ils vont réduire la visibilité, à voir à quoi ils vont appliquer tel ou tel truc. En gros, ce que ça note, c'est que c'est un petit peu compliqué pour Twitter aussi de gérer tout ça, mais ils commencent, là encore, à avoir des méthodologies qui sont, ça peut jamais être complètement irréprochable, mais au moins, ils ont une certaine approche qui peut être acceptable, qui est la moins pire. Voilà, c'est pas qu'ils sont... Le verre est vide, c'est que le verre est à moitié plein, ils prennent, c'est pas idéal, mais c'est la solution la moins pire qu'ils peuvent imaginer.
ils ont eu de l'entraînement avec l'élection aux États-Unis
exactement.
Il y a un an et demi, quoi. Donc ils savent, ils ont dû mettre en place des algorithmes qui vont sûrement pouvoir répliquer en France.
Oui, et puis le problème, c'est aussi, une fois que tu as trouvé un truc qui est soit, je ne vais pas dire criminel, mais enfin qui est critiquable, qu'est-ce que tu en fais ? En fonction de ce que ça dit, en fonction des outils que tu as, etc. etc. Donc ils ont des méthodes qu'ils vont appliquer. Vous avez entendu parler du métaverse d'Emmanuel Macron ?
Ah, mais oui, évidemment. Il nous a tellement hypé, Manu, là. C'est incroyable, voilà. C'est chaud.
Alors, c'était intéressant et ça a été assez critiqué. Emmanuel Macron, au lancement de son programme, il a dit, en gros, hein, je vous résume, il a dit « Il faut un métavers européen ». Et ça a fait beaucoup rire. Il parlait, en fait, de moteur 3D, de choses comme Unreal Engine, Unity, ce genre de choses. Évidemment, ce n'est pas un métavers, c'est simplement des outils de modélisation en 3D et de modélisation en 3D en temps réel. En gros, c'est les choses qui sont beaucoup utilisées dans les jeux vidéo. Mais pas que, il y a des choses qui sont utilisées. On se souvient par exemple de Mandalorian, qui a utilisé pour la première fois un immense écran, au lieu d'avoir un écran vert, un immense écran sur lequel étaient projetées des images modélisées en 3D qui faisaient office de décor pour filmer ces scènes-là. Donc ça peut être utilisé ailleurs. Et on parlait de questions de fake news. Alors à ce stade, c'est des trucs qui sont faits par intelligence artificielle, mais qui sait ce que ça peut donner après. Je crois que, évidemment, ça n'a pas directement à voir avec le métavers et on peut s'en moquer un peu. Mais je me demande si ce type de domaine n'est pas aussi un petit peu moins stratégique que les puces ou que, je sais pas, des stocks de nourriture et de ou de grains, ce genre de choses. Mais
c'est une déclaration d'intention. Dans l'idée, c'est bien, si tu veux. Mais malheureusement, souvent, on voit. Alors, je ne sais pas si l'État a l'intention de financer ça ou quoi. Mais souvent, on voit comment ça finit, quoi. Savoir de l'argent qui est balancé dans des trucs qui, au final, sont gérés n'importe comment. Et c'est bien l'idée d'être autonome au niveau de la 3D et tout. Mais est-ce que c'est vraiment le domaine où on a le plus besoin aujourd'hui d'investir de l'argent? Et moi, je vois plus ça comme une déclaration d'intention. Et puis, c'est la politique.
C'est, ouais, y a peut-être un peu de ça, mais je dirais que c'est la question de l'indépendance ou des géants de la tech européens qui sont compliqués à faire émerger. Hein. On essaye depuis 15 ans et on n'y arrive pas. La question, c'est un peu, est-ce qu'un moteur 3D fait partie de ces priorités-là ? Bon, a priori, je dirais non, pas forcément. Mais c'est là que le lien se fait avec le métavers. Si le métavers décolle, et que ça devient un moyen de communication important et qu'il y a une maîtrise de ces moyens de communication de ceux qui en fournissent les outils, bah oui, on est à un horizon à 5-10 ans, mais c'est pas dans 10 ans quand ça sera arrivé qu'on va commencer à se dire « Ah merde, on aurait dû développer un moteur de modélisation 3D performant et compétitif, tu vois ?» Donc Ça me dit toujours pas comment on fait pour le faire, ni même si c'est aussi important que ça. Mais je pense que la question est moins risible qu'on aurait pu le penser à la simple lecture ou l'écoute de ce qu'il a dit lui-même. Parce que, encore une fois, si le métavers se développe, si ça devient un petit peu le web de demain, le web lui-même...
Je ne le cache pas.
Pardon ?
Je te cache pas que j'ai un petit peu un doute sur le métaverse.
Ah, alors ça, c'est une autre question.
On va pas rentrer dans le débat, mais...
Mais non, mais c'est tout le problème. C'est qu'on sait pas si ça va effectivement décoller ou pas et quelle forme ça va prendre, parce que... Bon, oui, c'est un autre débat, mais imaginons que, sous une forme ou une autre, des environnements en 3D, que ce soit en métavers ou en réalité augmentée ou, tu vois, ce genre de choses, ça devienne un élément important de notre communication, comme l'est Internet aujourd'hui. Internet est construit sur beaucoup de standards et donc il y a une sorte d'engagement de toutes les parties du monde. On n'est pas certain que ça soit le cas dans le métavers aussi, même si c'est l'une des intentions du truc pour que ça puisse se développer. Bref, bon, je vais pas, c'est pas une colline sur laquelle je vais mourir, hein, comme on dit en anglais. c'est pas non plus, je vais pas me battre jusqu'au dernier sang pour dire si il faut un Unreal Engine européen, mais je trouve qu'il y avait une petite graine d'intérêt, de trucs intéressants dans cette idée.
Bah, c'est l'idée de la souveraineté, hein, de toute façon, que ce soit, soit au niveau du moteur 3D, au niveau du moteur de recherche. On a déjà vu ce que ça a donné, la fameuse histoire du moteur de recherche. C'était Quant qui était soutenu par l'État. Il est toujours, d'ailleurs, sûrement, je pense. Le problème, c'est que souvent, l'idée est bonne, mais la mise, l'application est absolument dramatique et on voit comment ça finit. Donc, évidemment, dans l'idée, être souverain à ce niveau-là, c'est essentiel.
Mais c'est, c'est pour ça que l'idée de s'y intéresser maintenant, parce que Quant et DuckDuckGo et enfin, tous ces moteurs de recherche et Brave que j'utilise moi-même, ils sont lancés quand Google était déjà dominant. Bon, c'est peut-être pas quand ils sont déjà dominants qu'il faut commencer à y réfléchir. En même temps,
mais Unreal Engine et Unity, sont déjà
ils sont
super
déjà
dominants.
On est d'accord.
Non, mais sinon c'est simple. Hein. L'État met, je sais pas, 15 milliards de dollars sur la table et puis il rachète un des deux. C'est possible. C'est peut-être la meilleure solution au final.
Oui, oui, bonne idée. Écoute, si ça fonctionnait comme ça, l'URSS serait encore là avec nous aujourd'hui. Mais bon.
Je vous trouve super enthousiaste sur quand même cette formule de métaverse européen. Ça sent quand même la formule où on met un buzzword pour émerger dans les discussions. Il nous reste 18 jours avant qu'il nous propose, il nous fasse une proposition autour des NFT européens. Peut-être, je sais
pas. Mais tu rigoles, mais les NFT. Bon, je vais pas me lancer dans, je vais pas monter sur cette colline là non plus. Justement, à propos de NFT et de crypto-monnaie, le projet dont on parlait, c'est Mika, je crois, dont on parlait la semaine dernière, a finalement pas été voté par le Parlement européen. On pensait qu'il allait être voté et pour bannir les crypto-monnaies proof of work, finalement, ils n'ont pas voté. Et à côté de ça, on se rend compte qu'aux États-Unis également, Elizabeth Warren a beaucoup de mal à rallier déjà l'ensemble de son camp, des démocrates, pour faire voter des lois pour contrôler un petit peu les crypto-monnaies. Donc, il semble peu probable que ce genre de contrôle soit implémenté aux États-Unis aussi. Donc, c'est contrairement à ce qu'on pensait la semaine dernière, ça semble pas prendre la direction qu'on imaginait. Et on conclut avec ça. Vous connaissez le Bored Ape Yacht Club ? Je suis sûr que
bien sûr.
Évidemment.
Comment ne pas connaître ?
Alors, le Bored Ape Yacht Club, c'est l'un des groupes de NFT les plus populaires au monde. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a les CryptoPunks, il y en a d'autres. Mais donc, c'est des petites images de singes qui s'ennuient dans leur yacht. C'est une allégorie formidable. Et ils ont lancé leur crypto-monnaie, dans laquelle d'ailleurs ont investi des venture capitalistes qui auront du coup une énorme part de décision sur le DAO associé, le Decentralized Autonomous Authority. Non, je ne sais même plus. Organization.
Voilà,
c'est ça. Et au-delà de ça, alors les NFT, les cryptos restent un petit peu controversés, évidemment, et même plus qu'un petit peu. Et puis, il y en a une baisse de hype, clairement, ces derniers temps. Mais on se rend compte que sur toutes les nouvelles technologies, je regardais un formidable petit documentaire sur les drones et dans lequel ils évoquaient le cycle de la hype, qui est au départ énorme, qui monte très très haut et puis qui redescend très bas pendant que les gens qui travaillaient sur ces technologies sont en train de développer des usages un petit peu plus crédibles que les trucs sur lesquels on fantasmait au plus haut de la hype. Et au bout d'un moment, ça se stabilise avec des usages qui sont un petit peu plus réalistes. Alors, on ne sait pas si la crypto-monnaie des Bored Apes nous amènera ce rêve incroyable. On ne sait pas non plus d'ailleurs quand enfin Ethereum passera en proof of stake au lieu du proof of work si énergivore. Mais ils continuent tous leur petit bonhomme de chemin. Et du coup, je boucle la boucle, NFT européen, alors peut-être pas NFT, mais domaine de contrôle. Disons que contrôler au niveau de l'Europe ces enjeux-là, peut-être que ça pourrait être quelque chose d'important et l'Union européenne et s'y intéresse et fait bien de s'y intéresser aussi. Bon, ouais, on n'en est pas à avoir un Macron coin quand même, mais peut-être si un jour, je suis surpris d'ailleurs que le Captain Web n'ait pas déjà lancé le Captain Coin, ou au moins des NFT
Alors,
du
Captain. Alors, Alors, sache que j'ai fait un test complet de NFT, à savoir acheter, créer et vendre un NFT. J'avais fait pour un dossier de l'apéro il y a un an, je pense, un truc comme ça. Et je me suis bien fait niquer au niveau de l'argent. Bon, enfin, ça coûtait bien cher. Bref, ça m'a coûté plus cher que ce que j'ai revendu au final, mon pauvre NFT. Non, mais après, c'est toujours la même chose. C'est compliqué de voter des lois, d'essayer de contrôler quelque chose qui est par nature décentralisé. Alors évidemment, tu as les exchanges sur lesquels tu peux essayer de mettre la main. Mais
ce qu'on a vu avec la guerre en Ukraine, c'est que justement, la plupart des plateformes d'échange avaient bloqué certains portefeuilles, bloqué certaines adresses pour se mettre en conformité avec les lois des pays dans lesquels ils opèrent. Justement, parce que oui, la décentralisation, c'est bien beau, mais à un moment, tu dois interagir avec des entités qui, elles, sont bien centralisées, comme des États, tu vois, ce genre de choses. Et du coup, t'es bien obligé de... En gros, ça remet un petit peu en question la véritable décentralisation de ces initiatives.
Les NFT, par exemple, c'est clairement centralisé puisque tu as les plateformes, effectivement, qui te vendent les NFT. Au niveau des cryptos, tu peux te débrouiller sans exchange et tout. C'est compliqué. Je ne connais pas assez pour en parler.
Oui, tu peux utiliser un MetaMask utiliser ton wallet sur ton appareil à toi. Mais oui, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça que les plateformes centralisées émergent parce que ça simplifie énormément la gestion du truc. Donc... on a la chatroom qui te suggère le VIC, le Very Important Coin.
On y a pensé.
D'accord.
Mais pour l'instant, on a d'autres moyens d'arnaquer nos auditeurs. Donc, on y va peu à peu, si tu veux. Ça va venir.
Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que sur cette conclusion, nous allons pouvoir clôturer l'émission. Et je vais remercier très, très chaleureusement Siegfried et Guillaume de m'avoir accompagné dans cette petite heure plus de discussion de sujets tech absolument passionnants.
Merci de nous avoir invités.
Mais alors, justement, si les auditeurs veulent un peu plus d'arnaque en tout genre sur un podcast interminable, où est-ce qu'ils peuvent aller ?
Oui, tout à fait.
Où est-ce qu'ils peuvent aller, Siegfried ?
Et moins sérieux que le rendez-vous tech. Et bien écoute, ils peuvent aller chercher Apéro du Capitaine sur leur application de podcast préférée. Ils devraient nous trouver assez rapidement et en live sur twitch.tv/adcpodcast tous les lundis soirs vers 21h30.
Magnifique.
À une ou deux heures près.
Enfin, vu que l'émission dure 3 ou 4 heures, une ou deux heures près, c'est pas grand chose.
Oui, voilà, c'est ça. On se coucher à minuit et se coucher à 3 heures du matin, il y a si peu Quelle de différence au final.
Le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Guillaume, où te retrouve-t-on, toi ?
Bah, il faut avoir encore un peu de temps parce qu'entre les productions podcastiques de Patrick, l'apéro du Capitaine, bon, il n'y a peut-être plus beaucoup de temps, mais peut-être que vous pourrez consacrer quelques minutes à écouter Tech Café où on a l'ambition d'avoir une infotech au moins complémentaire au rendez-vous tech. Et puis peut-être que vous me retrouverez aussi en train de jouer à Elden Ring, de faire mon Elden Guillaume parce que moi aussi je me suis fait. J'ai pris le virus moi aussi. Donc,
on est tous tombés dedans.
Ah, mais toi aussi ?
Oui, mais moi j'ai ragé là, j'ai un peu quitté depuis 2 jours. Je me suis rendu compte que j'étais malheureusement, mes gestes ne sont pas assez coordonnés pour pouvoir passer certains boss et ça m'a énervé.
Mais au moins t'as testé, comme ça tu peux en parler dans l'hebdo de JV toutes les semaines.
Oui, tout à fait, sur JV hebdo effectivement.
Oui, très bien. Et de mercredi. Il y a aussi Elden Guillaume, Elden Siegfried qui accompagne Elden Patrick, c'est très bien. merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions que je fais sur notepatrick.com, notamment le rendez-vous jeu où on parle de jeux vidéo toutes les semaines, dans la bonne humeur évidemment. Et patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission sur Patreon. Cling Patrick quand vous mettez les clés dans le bol en rentrant chez vous. Ou alors simplement maintenant, sur votre téléphone, vous allez sur le lien qui est dans les notes de l'émission. Ça vous ouvre la page Patreon. Et ce qui est merveilleux, c'est que sur Patreon, il y a plein d'autres créateurs aussi que vous pourriez soutenir. Donc, vous créez un compte et vous allez voir les gens que vous voulez soutenir parce qu'ils font des choses que vous appréciez. Je pense que ça sera bénéfique à tout le monde. C'est une bonne option pour utiliser un petit peu de vos sous en plus qui serait allé sur, vous savez, ce petit Mars-là qu'on prend à la machine à café le jeudi après-midi parce que, allez, on va prendre un Mars, pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais si on peut se l'éviter, moi, par exemple, j'essaye. Pas toujours. Mais j'essaye.
Tu as une machine à distribuer chez toi ?
ça s'appelle...
Dans ta cuisine.
Ça s'appelle la cuisine, voilà, c'est ça, exactement. Merci à vous tous et on se retrouve pas la semaine prochaine du coup, puisqu'on a les épisodes spéciaux sur les véhicules électriques pour le rendez-vous tech et la préservation et le rétro gaming pour le rendez-vous jeu. Et donc on se retrouve dans 2 semaines pour l'actualité. Ciao à tous.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.